les chemins de traverse. Rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, rebonjour si vous nous joignez sur REC 103.7 et les chemins de traverse. Nous étions il y a quelques minutes avec Jean-Louis Camus, qui est toujours d'ailleurs maire de Mézières-en-Brenne. Nous sommes actuellement avec monsieur le préfet de la Vienne, Serge Boulanger, excusez-moi, un petit souci technique, pour parler aujourd'hui donc de la Vienne et de votre passion, donc peut-être pour notre patrimoine. Vous avez peut-être découvert depuis quelques temps. Vous êtes arrivé il y a un an chez nous dans la Vienne. La première impression ?
Bonjour à toutes et à tous, et puis merci à votre radio de me donner un petit créneau ce matin. Je suis ravi d'échanger ce moment avec vous pour effectivement vous dire l'intérêt, la passion que j'ai pour ce département où j'ai trouvé du patrimoine, des entreprises, des hommes et des femmes et des élus qui sont attachés à leur territoire et sur lequel on a envie de donner le maximum de soi.
Exactement, beaucoup de choses. Vous étiez auparavant, on va parler un peu de vous avant de parler de la Vienne, vous étiez auparavant préfet en poste, dans quel secteur ?
Alors j'étais préfet aux côtés de Laurent Nunez, actuellement ministre de l'Intérieur, ouais. En charge de la coordination des Jeux Olympiques en Île-de-France. Et donc ça m'a donné l'occasion de pouvoir travailler avec de multiples acteurs pour pouvoir réaliser ce plus bel événement au monde.
Une belle expérience, je suppose, enrichissante.
Très riche, parce que d'abord ça a donné l'image de notre pays dans ce qu'il a le plus beau. En termes de patrimoine, mais aussi en termes de valeur et de capacité à pouvoir de surmonter les plus grands événements. Et donc c'était vraiment un moment dont j'aimerais bien que de temps en temps on puisse encore s'inspirer aujourd'hui dans ce pays qui est parfois un peu agité.
Exactement, un peu un doux euphémisme pour parler de la situation actuelle. On y reviendra peut-être tout à l'heure, on en parlera un peu, mais vous êtes arrivé, vous êtes marié, des enfants peut-être au moins ?
Alors je suis marié, j'ai deux grands-enfants. Voilà, j'ai ma vie privée qui est dans le nord de la France, à Arras tout particulièrement. Mais ma carrière m'a amené à sillonner tous les endroits de la France, de nord à l'est et du sud à l'ouest.
Exactement, une vie privée dans le nord, mais c'est vrai que c'est assez compliqué quand on est préfet. Je vois que vous êtes là ce matin parmi nous. J'ai été d'ailleurs surpris que vous acceptiez aussi facilement une invitation.
Ça fait partie de l'engagement. Préfet, c'est 7 jours sur 7, 365 jours par an, même en vacances. Cet été, vous avez votre téléphone et vous traitez vos appels et vous appelez un certain nombre d'acteurs. C'est l'engagement, c'est servir l'État et c'est pour pouvoir apporter toutes les réponses nécessaires pour un territoire.
La situation, vous diriez, de la Vienne par rapport à d'autres régions que vous avez pu traverser ?
C'est un département qui est confronté à tous les enjeux d'aujourd'hui. Les enjeux économiques avec des entreprises qui rencontrent un certain nombre de difficultés, des agriculteurs qui sont en manque de lisibilité, qui sont très inquiets pour leur devenir. Mais nous avons aussi d'immenses atouts. C'est-à-dire que le positionnement du département entre Bordeaux et Paris, à 1h15 de La Rochelle, son savoir-faire, son histoire fait que nous avons les capacités de pouvoir donner le meilleur. Nous avons des sites emblématiques tels que le Futuroscope, le Center Park, mais aussi des entreprises Safran, Thales, Dassault. Nous avons des atouts pour pouvoir réussir à surmonter ces difficultés. Nous avons aussi une grande particularité, c'est mon 8e département ici. C'est un département où pour la première fois je découvre une capacité à travailler ensemble et quand on le veut, surmonter ces difficultés, ces engagements politiques, etc., pour pouvoir faire en sorte de bâtir des projets. Et ça, c'est une particularité de la Vienne qui fait qu'on doit s'en sortir mieux que les autres.
Exactement. Vous me tendez d'ailleurs la perche à ce niveau-là. J'aime bien en parler dans chaque émission. C'est parler du triangle d'or du Poitou qui est mis en place actuellement par le département, qui donc regroupe Chauvigny avec sa cité médiévale, Angles-sur-Anglin avec son roc aux sorciers, et bien évidemment Saint-Savin avec l'abbaye de Saint-Savin. Trois sites emblématiques, trois communautés de communes. On parle justement de vivre ensemble. Trois communautés de communes, celle de Montmorillon, celle de Poitiers et celle de Grand Châtellerault, qui travaillent ensemble pour ce projet élaboré par le département. La préfecture pourrait rentrer en jeu sur ce développement touristique ?
Ah oui, bien sûr, et puis nous y travaillons. D'ailleurs, on a accueilli la ministre du Tourisme il y a quelques mois maintenant. Et l'enjeu, c'est de pouvoir d'abord apporter quelques financements à travers la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, qui finance grand nombre de projets dans ce département. Mais c'est aussi la capacité à pouvoir fédérer, mobiliser tous les acteurs pour pouvoir faire une offre globale de l'offre touristique dans ce département. On est un petit peu en retard sur ce sujet. On a beaucoup de patrimoine, on a beaucoup d'activités ludiques et d'activités diverses. Je pense au Futuroscope, Center Park, Vallée des Singes, etc. etc. Ouais. L'abbaye de Saint-Savin, Montmorillon. Nous avons besoin de pouvoir offrir à tous les usagers, à tous ceux qui peuvent venir passer une journée ou plusieurs jours dans le département, une offre globale. Aller passer deux jours au Futuroscope ou au Center Park, pouvoir aller faire du tourisme vert en faisant du vélo sur la vallée de la Gartempe, puis aller à Saint-Savin, etc., de manière à garder une nuitée supplémentaire, par exemple, chacune des personnes qui vient dans la France, dans la Vienne.
C'est ça, puisqu'actuellement, la moyenne, je crois, c'est deux jours au Futuroscope, ce qui est déjà pas mal, vous me direz, par rapport au nombre de visiteurs, plus de 2 millions cette année. Et puis le but, c'est ça, c'est de les garder un peu plus dans le secteur.
Ben, une nuit supplémentaire pour chaque touriste qui vient dans le département de la Vienne, ça se traduit en plusieurs millions d'euros à la fin de l'année sur le plan économique pour les restaurateurs, pour les hôteliers, pour les activités diverses et variées. C'est plusieurs dizaines de millions d'euros en activité économique.
Ça fait partie des attributions du préfet, justement, puisque vous êtes là pour la liaison au niveau entre la relation entre l'État et les municipalités locales.
Ah oui, c'est mon quotidien et c'est vraiment l'enjeu de pouvoir travailler avec les élus pour leur apporter les outils, parfois les financements, puisque l'État finance quand même beaucoup chaque année. Et c'est le moyen de pouvoir mutualiser, fédérer et d'être un petit peu le chef d'orchestre, l'animateur de l'ensemble des acteurs du territoire.
J'ai rencontré il y a quelques temps, je la croise régulièrement, c'est Isabelle Soulard, que vous connaissez peut-être, oui. Qui s'occupe énormément de patrimoine dans le secteur, qui me disait du bien de vous, hein, ah. Vous voyez, au moins c'est une bonne chose, et qui me disait votre passion pour le patrimoine.
Absolument, ben, c'est-à-dire que si on a tout, donc oui, parce que le patrimoine, connaître notre histoire, c'est mieux comprendre le présent et mieux préparer l'avenir. Et donc, avec Madame Soulard, et je suis content qu'il y ait au moins une personne qui m'apprécie dans le département, beaucoup de respect pour Madame Soulard parce que c'est un engagement du quotidien. Elle donne beaucoup de son temps.
Oui, tout à fait. Oui.
Et elle a cette capacité aussi à pouvoir rendre accessible la culture, le patrimoine, l'art en général, etc., à toute une série de populations qui parfois n'est pas directement concernée ou n'a pas eu l'occasion de pouvoir baigner ou être éduquée dans cet environnement.
C'est ça, où elle s'occupe d'ailleurs du triangle d'or du Poitou et puis de bien d'autres choses, hein, sur le secteur dans le département et même jusqu'à l'étranger d'ailleurs.
Hein. Jusqu'à l'étranger, avec oui, elle est très mobilisée et elle a aussi cette capacité à pouvoir, grâce au réseau qu'elle a su élaborer, mobiliser des financements qui viennent d'un peu partout, Stéphane Bern ou autres, sur un certain nombre d'événements. Donc c'est aussi extrêmement important de pouvoir aller chercher l'argent là où il existe.
De bonnes relations avec Isabelle Soulard, de bonnes relations peut-être aussi avec la direction du département, Alain Pichon.
Ah oui, bien sûr. Voilà. Avec le président, pour qui j'ai beaucoup de respect, avec y compris l'ensemble des conseillers départementaux qui sont très présents sur le territoire. Il n'y a pas un événement, pas un déplacement que je réalise sans que le président en personne, sans que l'un de ses collaborateurs, ses élus soient présents, avec une volonté de travailler ensemble sur de multiples sujets. Parfois pas simples. Je pense à l'aéroport qui suscite quelques polémiques. L'idée, c'est de pouvoir trouver le bon compromis de manière à pouvoir aboutir sur des projets économiques, culturels, touristiques, etc. Aussi travailler sur des sujets de solidarité. Je pense à notre expérimentation à Montmorillon de véhicules qu'on va mettre à disposition de la population, mais plus globalement sur le département, avec le conseil départemental, des véhicules au profit de ceux et celles qui ont accès à un nouvel emploi.
Donc beaucoup de choses avec le département. Président du département d'ailleurs, hein, qui est actuellement depuis 7-8 minutes en inauguration, hein, du Salon du Livre à Entrant. Je le verrai demain avec d'autres invités. Il y a le fils de Jodassin, pardon, qui est invité donc tout le week-end. La littérature, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Je vous dis ça parce qu'on a dans le secteur, hein, le président de la radio, hein, qui a une émission chaque semaine sur la littérature.
Alors oui, parce que bien évidemment la littérature, c'est un peu comme tout à l'heure on parlait de l'art et de la culture ou du patrimoine, ça fait partie de notre richesse, de notre patrimoine. En revanche, je dois avouer devant l'ensemble de vos auditeurs et auditrices que je ne lis que pendant mes vacances.
Non, voilà. Beaucoup de rapports, voilà. Sinon, je suppose.
Ma lecture, sinon, ce sont les documents très administratifs, mais je prends beaucoup de plaisir à lire des romans de toutes sortes et j'ai un côté très éclectique. Je n'ai pas de passion particulière sur tel ou tel domaine ou tel secteur. Ça peut être de l'histoire, ça peut être un simple roman policier. L'idée, c'est de prendre plaisir à ce que l'on lit.
Je n'essaierai même pas de vous piéger dans ce domaine-là. Je suis un peu comme vous, je suis un peu éclectique dans ce domaine. Ce matin, j'étais sur du Spirou, vous voyez bien.
Oui.
Beaucoup de choses à faire, hein, quand on est préfet. Je suppose énormément de services. Combien de personnes au niveau du service de la préfecture ?
Alors nous sommes 267 à la préfecture et avec l'ensemble des autres services de l'État, je pense à la direction des territoires, la direction de la protection de la population qui veille sur notre alimentation et sur nos animaux, et puis la DETS qui s'occupe du travail et de l'emploi et de la solidarité. Nous sommes au total presque 500, enfin 487 exactement.
Ça fait un an que vous êtes arrivé, hein, vous êtes arrivé début novembre l'année
25
dernière.
Novembre,
25 novembre. 25 novembre, donc oui. Fin novembre l'année dernière, mon anniversaire est 27, vous êtes venu pratiquement pour mon anniversaire.
Voilà, oui.
Depuis un an, le bilan, c'est quoi sur la Vienne en termes d'action, en fait, hein,
que beaucoup, ce soit le... Beaucoup de choses, avec bien évidemment un point dur qui est pour moi... Qui est pour moi un vrai enjeu de mon passage dans ce département, qui est celui de l'agriculture et de l'eau. Je me suis beaucoup investi depuis mon arrivée sur le sujet, parce que c'est un moyen non seulement de préserver notre eau potable, mais aussi de donner une survie et une lisibilité à nos agriculteurs.
Parler des bassines, je suppose, à ce moment-là.
Des bassines, mais pas que, parce que, bien évidemment, l'agriculture ne se résume pas uniquement aux réserves de substitution. Et puis après, il y a plein d'autres projets sur lesquels nous travaillons au quotidien depuis 11 mois maintenant, dans le domaine économique, avec le Futuroscope, comment on peut travailler avec eux pour l'articuler avec l'ensemble des acteurs touristiques du département. Et puis, c'est la découverte jour après jour des 265 communes de ce département où chaque jour on s'enrichit, on découvre des acteurs et des actrices extrêmement mobilisés et des entreprises à qui on a aussi besoin d'aider pour pouvoir leur offrir les capacités de développement sur des marchés nationaux ou internationaux.
Beaucoup de choses donc depuis un an se sont passées sur le département. On parlait donc de votre rôle, de vos inquiétudes peut-être. Au niveau de la sécurité, on a vu qu'à Poitiers, il y a quelques mois, il y avait eu des émeutes, peut-être pas, mais en tout cas des incidents assez importants. Ça fait partie de vos prérogatives, ça, la sécurité en tant que préfet?
Ah oui, alors autant, bien évidemment, je ne tiens pas à ce qu'on résume l'activité du préfet à celui de la simple sécurité.
Oui, tout à
parce
fait.
Que, bien évidemment, le spectre des missions est beaucoup plus large. Pour autant, toutes les semaines, j'ai une réunion avec le chef de la gendarmerie, le chef de la police, le chef du renseignement, etc. etc. L'enjeu, c'est de pouvoir analyser ce qui se passe. Nous avons eu des dramatiques événements, type la mort d'Inès, tuée par son compagnon, qui est toujours en fuite au moment où on se parle, mais nous le recherchons activement en France et à l'étranger. Mais ce sont aussi les cambriolages, ce sont aussi les atteintes à la personne avec des agressions. On sent que notre société évolue de manière violente. Ici dans la Vienne comme partout ailleurs, on a plus d'atteintes aux personnes que nous n'en avions auparavant. En revanche, on peut constater que sur les derniers mois, les atteintes aux biens, je pense au cambriolage dans les domiciles, dans les entreprises, ont significativement diminué dans ce département. C'est pas que l'affaire de la police et la gendarmerie. Et je souligne la qualité de leur intervention 24 heures sur 24, mais c'est aussi une prise de conscience de l'ensemble des acteurs, des particuliers aux élus, aux chefs d'entreprise, que la sécurité, c'est l'affaire de tous. C'est-à-dire, c'est les équipements de vidéoprotection dans les collectivités ou dans les entreprises.
Comme à Chauvigny, d'ailleurs, depuis quelques temps.
Absolument. Chauvigny, et d'ailleurs, je l'avais évoqué lors d'une visite dans cette commune. Mais c'est la vidéoprotection, mais ce sont aussi les dispositifs d'alarme que les entreprises, dont les entreprises s'équipent, mais aussi les particuliers. Je précise, par exemple, que dans le département, avec les centrales, les sociétés de centrales d'alarme, nous avons eu 301 appels depuis le début de l'année, qui nous signale des alarmes qui ont été déclenchées, sur lesquelles on ne peut pas lever le doute. C'est-à-dire que ça déclenche immédiatement une intervention des seuls de la gendarmerie. Et ça, ce ne sont que pour les gendarmes. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience et que les gens se sont équipés, se sont responsabilisés. Nous avons beaucoup de résidences secondaires dans le département. Eh bien, c'est responsable. Et là aussi, je salue l'engagement de l'ensemble de la population, parce que chacun doit prendre une part dans la sécurité.
D'accord. Je vais vous proposer une première pause musicale, histoire de se reposer un peu. Vous êtes plutôt pain au chocolat, chocolatine?
Pas au chocolat, mais je ne rentrerai pas dans la polémique.
Exactement, vous avez bien raison, c'était neutre. Je vous dis ça parce que, que je vous disais tout à l'heure, au niveau du salon du livre d'Entrant, le fils de Joe Dassin sera là donc, pour présenter son livre. Et donc, papa chantait à une époque les petits pains au chocolat.
Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. Lui souriait, il ne la regardait pas.
Aïe, 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 aïe.
Et pourtant, elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Il était mieux que voilà tout, mais elle ne le savait pas.
Aïe, 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 aïe.
Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas.
Aïe, 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 aïe.
Il ne voyait son cœur. Dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des babayes. Un soir on est mariés, aïe, 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 tout en blanc. Qu'elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Et de leur union sont nés des tas de petits gosses, y a peu comme papa. Gambadant parmi les brioches, se remplissant les poches de
sur REC 103.7 et les chemins de traverse en compagnie de Serge Boulanger, préfet de la Vienne, venu aujourd'hui et pour nous rendre visite. Je vous remercie d'être venu parmi nous pour parler vrai, pour parler franchement. C'est vrai que la situation n'est pas toujours évidente, monsieur le préfet. Le sujet actuel, on en parlait tout à l'heure, hein, ce sont les agriculteurs, hein, avec pas mal de problèmes du côté de l'eau, mais pas que. Il y a la sécurité qui inquiète aussi nos concitoyens. Il y a alors pour les gens qui se plaignent toujours, il y a les soucis gouvernementaux qui retombent aussi sur la vie quotidienne des Français et des Françaises. Quand on est préfet, toutes ces choses-là, c'est pas évident de sortir tous les matins en se disant « mince, je vais encore avoir soit du lisier sur mes portes de préfecture, soit autre chose ».
Oui, ça fait partie de la vie, le quotidien du préfet. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de lisier sur les portes, etc. Et Dieu sait si on s'y investit, mais c'est l'investissement. C'est vrai que le contexte de notre pays a été rendu plus difficile ces derniers temps, avec une population, avec des chefs d'entreprise, avec des élus qui ne comprennent pas forcément ce qui est en train de se passer au niveau national. Et par contre, on a conscience des conséquences immédiates pour notre pays, pour le coup de frein donné à notre économie et puis les incertitudes qui pèsent sur la consommation des ménages. Donc il faut rassurer, il faut donner de la lisibilité, il faut faire confiance, il faut démontrer que l'État continue malgré les incertitudes que nous avons connues politiques l'année dernière ou cette année. Il faut pouvoir démontrer que l'État est là, l'État continue à soutenir notre économie, soutenir ceux qui en ont besoin, ceux qui sont dans le besoin. Voilà, c'est pas simple au quotidien, mais ça fait partie de la mission et d'engagement.
Exactement. Quand on est préfet, on est désigné par le chef de l'État sur proposition du ministre de l'Intérieur, je crois, et du Premier ministre.
Absolument. On est alors par toute la chaîne, hein, le ministre de l'Intérieur, puis le Premier ministre, et c'est le président de la République qui décide en Conseil des ministres. Oui, c'est un choix important. Donc, on est nombreux sur la ligne de départ et pas forcément toujours.
Je suppose.
pas toujours à l'arrivée. Mais nous nous rendons compte effectivement au quotidien de notre action et de notre capacité à pouvoir surmonter les difficultés de nos territoires.
Le cursus pour devenir justement préfet, je suppose qu'il n'est pas évident. Hein. Je dis ça parce que j'ai un fils de 15 ans, on ne sait jamais.
Ah ben, faut l'encourager. Il faut l'encourager parce qu'il n'y a pas de profil type. Vous aviez juste avant un préfet, Jean-Marie Gérier, qui est un ami, qui venait de formation supérieure, avec un engagement en ayant une carrière à Paris, mais pas que. Et puis vous avez des gens qui ont fait l'ENA et qui ont un parcours un peu prédestiné. Et puis des gens comme moi qui sommes un pur produit de la méritocratie. C'est-à-dire que moi, je viens du plus bas de l'échelle de la fonction publique. J'ai fait tous les métiers d'une préfecture, de chauffeur à standardiste. Et j'ai gravi un par un, par la voie du concours, tous les échelons pour pouvoir arriver à celui de préfet. C'est-à-dire que ça nous donne justement, en ayant ce panel de personnalités, de formations, des équipes très riches qui nous permettent d'aborder tous les sujets avec un regard différent selon l'approche. Ma petite équipe aujourd'hui, avec mes 4 sous-préfets, on a tous, j'en ai une qui vient du monde de la police, la sous-préfète de Châtellerault, j'en ai un qui vient des collectivités locales, le sous-préfet de Montmorillon, une qui a fait l'ENA et une qui a un peu le même parcours comme moi, la secrétaire générale, sous-préfète de votre arrondissement ici, à Chauvigny, Muriel Boireau, et qui a un parcours un peu comme, assez pareil que le mien. C'est justement cette approche différente que nous avons dans nos réunions du matin, où nous abordons tous les sujets du département, qui nous permet d'être au plus près, de coller du terrain au terrain, et de pouvoir avoir une réponse qui soit, je l'espère, le plus souvent possible, le plus proche de ce que les gens attendent de nous.
D'accord. Je voyais que vous étiez plusieurs. Moi, je pensais qu'il y avait en fait deux sous-préfets dans la Vienne. En fait, vous avez beaucoup plus de monde que ça. Quatre sous-préfets.
Quatre sous-préfets et une directrice de projet qui a un projet particulier, qui est le campus Numéria sur le site du Futuroscope. Mais trois sous-préfets d'arrondissement, Montmorillon, Châtellerault et l'arrondissement chef-lieu de Poitiers. Et puis, une sous-préfète directrice de cabinet, qui est la secrétaire générale, donc sous-préfète de l'arrondissement chef-lieu de Poitiers, et la directrice de cabinet, nous ont rejoints il y a 4 semaines. Nouvelle équipe.
Une équipe donc de sous-préfets, une grande équipe, on le disait tout à l'heure, plus de 500 personnes sur la préfecture. Différents services. Alors on connaît, nous, la préfecture, lorsqu'on a besoin d'une carte grise, lorsqu'on a besoin d'un passeport, ça tombe bien, puisque je compte bien faire appel au service pour l'été prochain, comme beaucoup supposent. Il y a une période, justement, pour les demandes de passeport.
Il faut anticiper, et il faut surtout que tout le monde, tous ceux qui nous entendent aujourd'hui, aient bien à l'esprit que quand on se rend à l'étranger, il faut nombreux pays demandent à ce que le passeport ou la carte d'identité ait une durée validité de minimum de 6 mois. C'est-à-dire quand on pénètre sur leur territoire, il faut que vous ayez un titre d'identité qui soit encore valable au moins 6 mois. Et donc, assez régulièrement, avant l'été, au mois de juin, fin mai, eh bien, nous avons des personnes qui nous saisissent en disant bah « Oui, mais moi, je pars dans 3 semaines et j'ai plus 4 mois sur ma CNI. » Surtout, anticipez. Faites-le. On ne vous reprochera pas de déposer votre carte d'identité au mois d'octobre ou au mois de novembre, quand bien même elle viendrait à échéance au mois de mars ou au mois d'avril l'année prochaine. Plus on anticipe et qu'on évite les périodes de mars à juin, parce que mars à juin, c'est ceux qui partent en vacances comme nous, mais ce sont aussi tous nos jeunes qui passent leurs examens et pour lesquels il faut aussi un titre d'identité en cours de validité. Donc anticiper, et voilà, ça se passe très très bien et il n'y a pas de difficulté. On a résorbé le retard au niveau national de CCNI Passeport.
Passeport, donc carte grise, et puis carte de séjour aussi.
Carte de séjour.
Combien de cartes de séjour, si ce n'est pas indiscret, dans la Vienne?
On a à peu près un flux de 3000 et quelques titres qui sont émis par an, avec des personnes qui sont déjà là sur le territoire depuis plusieurs années, et donc ce sont des renouvellements de titres. Nous avons aussi un grand nombre d'étudiants étrangers que nous accueillons à l'Université de Poitiers, ou en stage dans nos entreprises, et puis nous avons un flux nouveau chaque année qui est identique à la moyenne nationale, soit des demandes, soit des personnes qui arrivent en demandant le statut de réfugié, et ou alors des personnes qui arrivent dans le cadre du droit commun et qui viennent tenter leur chance dans notre pays.
J'ai écouté ce matin, c'est pas mon habitude, je vous le dis tout de suite, CNews sur à la télé, donc un CNews qui en boucle parlait de l'affaire Lolin, du meurtre de cet enfant sur la région parisienne, et qui parlait donc de la situation des OQTF. Alors je me suis intéressé, j'ai tapé OQTF sur internet et je me suis aperçu que c'était le préfet en fait qui donnait ses OQTF, ses obligations de quitter le territoire. C'est vous qui faites appliquer ces mesures ou...
Ah oui, dans chaque département, c'est le préfet et seulement le préfet qui prend ce type de décision. Nous en prenons plusieurs centaines par an. Nous prenons plusieurs centaines d'obligations de quitter le territoire français en direction d'étrangers pour lesquels on considère que nous ne voulons pas, nous ne souhaitons pas les conserver sur le territoire français. En revanche, en parallèle, je précise que nous avons aussi une capacité à pouvoir délivrer des titres de séjour parce qu'il y a des gens qui ont des profils, des velléités démontrées de vouloir s'intégrer sur notre territoire et de pouvoir travailler et avoir une nouvelle chance dans leur vie. Mais les obligations de quitter le territoire, oui, c'est clairement, et nous mettons aussi, par exemple, des personnes en centre de rétention administrative, à Bordeaux ou à Hendaye, lorsque ces personnes sont amenées à devoir reprendre l'avion pour rejoindre leur pays.
Alors, on parle souvent des trains qui n'arrivent pas à l'heure, rarement de ceux qui arrivent à l'heure. Combien d'OQTF délivrés et combien véritablement mis en place chaque année sur la Vienne?
On est à plusieurs centaines de mémoire. C'est de l'ordre de 600 à 700 OQTF et nous en mettons en œuvre de l'ordre de 150. Alors ça veut dire que les autres seront mis en œuvre dans les mois, les années qui suivent. Ça veut dire que parfois on n'a plus les individus sous la main, parfois on n'a pas les laissez-passer consulaires avec certains États.
Tout à fait, on parle de l'Algérie notamment actuellement.
Tout à chacun connaît les difficultés diplomatiques que nous rencontrons actuellement avec l'Algérie. C'est aujourd'hui difficile pour pouvoir envoyer un Algérien. Pour autant, ça ne veut pas dire que cet Algérien est laissé à l'air libre. C'est-à-dire qu'on l'assigne à résidence, on le met en centre de rétention administrative, etc. Ça veut dire que les autorités françaises gardent ces personnes sous contrôle, de manière à pouvoir le plus rapidement possible mettre à exécution cette obligation de quitter le territoire français.
C'est malheureusement ces faits divers qui nous rappellent un peu ce genre de choses, qui sont bien sûr mis en avant par certaines radios, certaines télés, et puis certains hommes politiques aussi, certains groupes, certainement. On parle de problèmes d'OQTF, mais pas que. On a prochainement des élections qui vont se dérouler, des municipales. L'organisation est en train de se faire, je suppose.
Oui, bien sûr.
Combien de candidats en moyenne actuellement par les candidatures sont établies déjà ou pas encore?
Ah non, l'ouverture des candidatures officielles, ce sera pour le début d'année 2026. Mais pour autant, la campagne est commencée quasiment partout sur le territoire. On est sur des perspectives de renouvellement de 30 à 40% de nos élus, ce qui ne va pas du tout dans l'esprit de ce qui est dit parfois dans certains médias. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une désaffection pour l'engagement local, etc. On a des acteurs qui ont envie de s'engager sur le territoire et dans de nombreuses communes, nous serons sur 3 à 4 listes. Ce qui veut dire qu'il y a bien encore un engouement pour l'engagement de terrain. Donc, tant chez les hommes que chez les femmes, on a cette réforme qui fait, j'en profite, pour les communes de moins de 1000 habitants, qui fait qu'il ne faudra surtout plus mettre barré des noms sur les listes qui vous seront soumises, dans la mesure où ce sera un bulletin nul. Maintenant, ce sera un scrutin de liste pour les communes de moins de 1000 habitants comme pour toutes les autres, avec, on prendra une liste ou pas, mais on ne devra plus raturer, sinon ce sera un bulletin nul.
Tout à fait, avec un minimum de 13 candidats, je crois, par commune, sur une commune de 1000 habitants, moi qui habite une commune, celle de l'Appui, avec un peu plus de 500 habitants. Trouver 13 candidats avec parité, c'est déjà pas évident. Maintenant, trouver deux listes, c'est un peu plus compliqué.
Eh bien, c'est justement l'intérêt de pouvoir... Oui. Moi, j'ai été élu dans une petite commune de 469 habitants. Eh bien, c'est justement l'engagement de pouvoir parfois faire une liste qui fédère l'ensemble des bonnes volontés d'un territoire. On n'est pas obligé de... L'enjeu, ce n'est pas forcément de faire deux listes ou trois listes. On peut avoir une seule liste et de pouvoir faire en sorte justement d'avoir une liste qui associe l'ensemble des acteurs du territoire. Dans les communes plus importantes, il y a bien évidemment des enjeux qui sont un peu différents et qui amènent plusieurs listes. Mais je m'inscris en faux sur la difficulté de trouver des femmes qui s'engagent parce qu'on a parfois ce type de réaction. Et nous avons dans ce département d'excellents exemples de femmes maires, de femmes adjointes ou de femmes conseillères municipales qui font un excellent travail.
Ah, tout à fait, oui.
Et d'ailleurs, je profite d'être invité à votre émission pour quand même saluer et de rendre hommage à notre maire de Chauvigny qui a récemment démissionné de ses fonctions pour des raisons personnelles et notamment de santé. Lui rendre hommage parce que j'ai eu l'occasion de venir souvent sur Chauvigny et de pouvoir saluer l'action qui a été la sienne pendant toutes ces années où il était à la tête de la commune, mais aussi de rendre hommage à son adjointe qui a pris sa succession et qui ira aux urnes en mars prochain.
Exactement, Nelly Gardaflip, qui sera d'ailleurs notre invitée à l'émission spéciale pour le Téléthon. Téléthon qui est organisé cette année donc pour la Vienne à Chauvigny. Donc Nelly Gardaflip sera là avec Marine Moulin, la déléguée départementale, pour une heure d'émission pour nous annoncer le programme. On en parlera à ce moment-là. Je peux déjà annoncer d'ailleurs qu'il y aura un feu d'artifice qui sera tiré à Chauvigny le 6 décembre prochain à l'occasion de ce Téléthon. Beaucoup d'animations. Vous êtes au niveau de la préfecture en lien avec ces animations forcément, puisqu'il y a des autorisations.
Oui, il y a des autorisations pour tout événement, pour tout grand événement, il y a évidemment une autorisation délivrée par la préfecture, ne serait sous un angle de sécurité. Alors il y a des enjeux parfois aussi de neutralité philosophique, politique, etc., etc. Mais c'est surtout l'enjeu de sécurité. Et c'est l'occasion pour moi d'ailleurs de rappeler par exemple que durant l'été, j'ai pris un arrêté qui a pu faire réagir de manière négative sur les feux d'artifice, oui, notamment à Chauvigny, puisqu'il n'y a pas eu le traditionnel feu d'artifice. Mais je l'ai pris en responsabilité parce que nous étions sur des journées où nos sapeurs-pompiers étaient engagés à plus de 50% de l'ensemble de l'effectif, c'est-à-dire que nous étions en capacité maximum d'engagement de nos moyens matériels et humains, que nous avons un dispositif qui repose essentiellement sur des pompiers volontaires, un travail que je salue là aussi, et que mettre des feux d'artifice qui sont tirés parfois depuis des champs ou qui peuvent avoir des retombées d'artifice sur des arbres ou sur des champs et qui auraient amené des incendies supplémentaires, je ne pouvais pas prendre ce risque par rapport à la sécurité du public ou par rapport à l'engagement de nos sapeurs-pompiers. Et donc c'est quelque chose que je regrette bien évidemment pour le territoire parce qu'il n'y a pas eu ces festivités attendues du 14 juillet, mais que je ne regrette pas sur le plan opérationnel parce que pour la population comme pour nos sapeurs-pompiers, c'était nécessaire.
Exactement, ce qui est peut-être un bien pour un mal, enfin, ou un mal pour un bien, je ne sais pas trop, mais le fait qu'on ait été obligé de décaler ces feux d'artifice, hein, c'est vrai que ça permet d'en avoir à d'autres moments, hein, comme là, le feu d'artifice de cet été de Chevigny qui arrivera donc le 6 décembre. J'ai vu qu'il y en avait eu un du côté de Cissé, je crois, il y a quelques jours. Donc pas mal de festivités qui sont décalées, qui amènent justement un choix plus important au niveau de la population.
Oui, ça permet de mieux le répartir sûrement dans l'année. Y compris pour nos artificiers d'ailleurs, mais c'est aussi un moyen parfois de réfléchir à d'autres solutions, à une alternative, mais il est évident qu'il faut que nous puissions aussi anticiper l'été 2026, hein, parce que le changement climatique, il est là. Et donc, quand on est dans un département rural et dont on est fier de notre ruralité, eh bien, ce type de feu d'artifice avec des morceaux qui peuvent retomber dans nos champs et mettre immédiatement le feu, ça a des conséquences. Alors après, est-ce qu'il faut passer au spectacle de drones ou autre? Je ne sais, c'est pas à moi de répondre, mais on peut mieux les répartir dans l'année pour faire en sorte que on puisse faire la fête quand même, y compris parfois sans feu d'artifice.
Exactement, tout à fait. Au niveau, justement, on parlait de réunion pour tout ce qui est autorisation pour les feux d'artifice ou autre. Vous, à votre niveau, hein, pas mal de réunions, je suppose, tous les jours dans différents domaines. C'est pas parfois un peu compliqué de passer un peu du coq à l'âne, j'allais dire, peut-être pas, c'est peut-être un peu une mauvaise expression, mais de passer d'un sujet à un autre, d'être toujours concentré par rapport à cela?
Ah, c'est épuisant. Je peux vous assurer que le soir, quand je me couche très très tard, jamais avant minuit et demi, une journée normale, c'est entre 7 et 8 réunions jour. Enfin, oui, réunions, je mets des rendez-vous, des audiences, etc. Et des séquences de travail en interne de la préfecture, c'est 7 à 8 séquences jour. Et puis, parallèlement, vous avez à gérer par jour entre 250 et 300 mails, plus les appels téléphoniques, etc. Ce qui veut dire que plus vos parapheurs, les signatures, une journée de préfet, ça commence à 6h30 le matin, ça se termine à minuit et demi. Donc voilà, c'est le rythme, et c'est 7 jours sur 7. Donc, et y compris pendant vos vacances, je précise, puisque je suis parti un peu de la Vienne, j'ai honte, mais je suis parti de la Vienne cet été. Et bien, quand vous partez avec votre ordinateur, vos téléphones et vos dossiers sous le bras, parce que pendant ce temps-là, il faut travailler aussi un petit peu. Alors, pas au même rythme, pas dans les mêmes conditions, mais il faut pouvoir continuer à travailler. Mais ça n'a jamais été pour moi une difficulté, et je précise, pour mon épouse et pour mes enfants non plus.
On parlera juste après la pause musicale, justement, de d'autres personnes qui sont un peu comme vous. Ce sont les maires, hein, qui sont sur tous les fronts à tout moment. On en parlera après la pause musicale, mais le week-end, pour vous, c'est randonnée, c'est balade, c'est lecture. On a vu que ce n'était pas forcément le cas, aussi un peu, mais votre occupation le week-end?
Alors, c'est de pouvoir consacrer un petit peu de temps à mon épouse qui m'accompagne dans mon poste, mes enfants étant grands, mais c'est surtout le moyen de me mettre à jour, c'est-à-dire de pouvoir trier toute ma boîte mail, de pouvoir de préparer ma semaine avec tous mes dossiers. Là, en venant dans la voiture, j'ai travaillé mes dossiers, une partie de mes dossiers de la semaine prochaine, vos discours, vous préparez votre semaine. Non, le week-end, c'est quand même aussi un week-end où on travaille, mais on travaille donc de manière plus détendu, comme aujourd'hui, je viens en jean et devant vous, etc. Ça permet d'être un peu plus détendu, mais c'est aussi l'occasion, le dimanche, de prendre la voiture. Le dimanche après-midi est consacré à ce que, avec mon épouse, on prend la voiture, on sort de la grille, de la cour de la préfecture, et on part dans une direction qu'on n'a pas définie. Et de manière à ce que, là, au bout de 10 mois, eh bien, j'ai quasiment fait les 265 communes, mais à titre privé, ça permet de voir le revers de la médaille, voir un peu, découvrir les choses, d'aller voir Saint-Savin sans protocole, sans dispositif particulier, d'aller voir Availle-Limousine, d'aller voir Lussac-les-Châteaux, etc., etc., de voir l'ensemble des communes de ce département sous un autre angle, avec un regard qui est celui du citoyen lambda que nous sommes tous dans nos vies, mais de pouvoir prendre, s'enrichir de ce patrimoine.
C'est ça, c'est important. Un préfet, on dit que dans un préfet dans la Vienne, c'est environ 2 ans et demi d'ancienneté, enfin de présence. Vous avez déjà des dates peut-être de prévues? Non, vous n'avez pas prévu de partir pour l'instant, j'espère.
Alors, moi, j'ai pas prévu de partir. Et si on me demande mon avis, je veux rester longtemps. Ce sera peut-être pas l'avis collectif, hein. Tout le monde n'aura pas forcément envie que je reste longtemps. Non, j'aime beaucoup ce département. En revanche, c'est pas nous qui choisissons. On choisit ni où on va, ni quand on en part. C'est laissé à la main de notre président de la République et de nos dirigeants. Mais bien évidemment, moi je souhaite que la durée de vie des préfets dans un poste soit quand même minimum de 2 ans à 3 ans, de manière à pouvoir faire en sorte qu'il y a ces premiers 6 mois qui consistent à plutôt découvrir le territoire et les acteurs, et puis après vous commencez à construire. Et si vous partez trop vite, à un moment donné vous lancez des choses et vous les mettez pas en œuvre, etc. Donc c'est un peu difficile, ça peut être un peu frustrant parfois. Et puis, moi, j'ai envie d'être responsable devant mes actes, c'est-à-dire que j'ai pris des engagements vis-à-vis des élus et des acteurs de ce département. J'ai cité tout à l'heure les agriculteurs. Je veux, sur ce sur quoi je travaille aujourd'hui, pouvoir, d'ici quelques mois, pouvoir être devant ces mêmes personnes, démontrer que ce que nous avons fait a été utile ou que nous ayons à le corriger le cas échéant.
Exactement. Ben, nous en parlerons après la pause musicale, nous parlerons d'aménagement du territoire, nous parlerons des maires, puisqu'il y aura toujours des personnes pour se plaindre. On va leur passer une chanson pour les satisfaire. C'est Jacques Dutronc qui a chanté, il y a quelques années, Merde in France.
Hey, la fauchonne conne du Mouloud, lavabo, trottoir, Mouloud, Merde in France. Hey, la fauchonne conne du Is a booker, is a lie, is a trip, a book, and a merde in France.
Caca boum, caca boum.
Hey, watching you, ta frau, clair ou blout. Canapé, bidet, à coudre, merde in France.
Caca boum, caca boum.
Hey, watching you, ta frau, clair.
Caca boum, caca boum.
Watch me again, même triple again, merde in France.
Caca boum, caca boum.
Is a booker, is an eye, is a type of book, la merde in France. Et Gaspard, ouais, Pierre Soquin, plus baby sleep, dortoir, les mouches, merde in France. Et Gaspard, ouais, Pierre Soquin, plus au Mickey, con, au mon lampadaire, et paillasse, son merde in France. He's a booker, he's a knight, he's a triple booker, la merde in France.
Cacaboum, cacaboum.
Cigare. Hey, you speak by ciao, baby, bye bye. Baby, sleep, dortoir, limaille, merde in France. Hey, masque à gaz, ciao, bye bye.
Cacaboum, cacaboum.
He's a booker, he's a knight, he's a triple booker, la merde in France.
Cacaboum, cacaboum. Cacaboum, cacaboum,
la fauchonne comme Dieu.
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 Cacaboum, cacaboum,
he's a booker, he's a knight, he's a triple bookenard.
Nous sommes toujours sur RC 103.7 et les chemins de traverse en compagnie de Serge Boulanger, donc préfet de la Vienne, avec qui nous parlons depuis tout à l'heure de la situation dans la Vienne, mais pas que. On a parlé un peu de la situation des maires, on n'a pas parlé de la situation des associations, parce que c'est vrai qu'il y a actuellement pas mal de questionnements de ce côté-là.
Alors, associations, ce sont des acteurs majeurs de notre quotidien. Dans le domaine du sport, dans le domaine, là aussi, on parlait du patrimoine tout à l'heure, etc., mais aussi dans la prise en charge du handicap. Les associations, il faut savoir que dans ce département de la Vienne, qui est riche de son histoire, là aussi, dans le domaine associatif, c'est 12% de l'emploi. 12% de l'emploi. C'est-à-dire que quand on parle des grands acteurs économiques de ce département, souvent on oublie les associations. Or, les associations, à tous les niveaux et dans tout notre quotidien, elles sont présentes. Et puis les associations, c'est quand même un excellent exemple de la vie. On a des jeunes qui s'engagent dans le milieu associatif. Je pense notamment à nos secouristes, mais pas que, ou dans le domaine du sport. Mais c'est aussi les personnes dans leur vie professionnelle qui donnent consacrent une partie de leur temps au secteur associatif. Et puis ce sont nos retraités qui viennent donner un peu de leur temps pour pouvoir apporter leur expérience, leur savoir, leur temps au profit des autres. C'est une excellente école de la vie parce que tout le monde se réunit. Il n'y a pas de galon dans l'associatif. On est tous pareils, on donne tous de notre temps et de notre énergie et de notre volonté de pouvoir construire ensemble. Et c'est dans notre pays qui parfois est en perte de lisibilité. Je trouve que la vie associative donne l'exemple de ce que pourrait être notre pays avec cet engagement du quotidien qui est parfois difficile. J'en ai conscience, hein, on est obligé dans un contexte budgétaire contraint de réduire parfois les subventions que nous accordons aux associations. Mais là aussi, j'étais cette semaine à l'APSA qui prend en charge le double handicap historiquement. eh bien, c'est de travailler à leur côté pour pouvoir trouver des solutions de fonctionnement, d'organisation qui puissent permettre, avec des moyens certes quelquefois un peu diminués, de continuer à fonctionner. Et nous avons un fonds départemental de soutien à la vie associative qui, tous les ans, nous permet de donner un petit coup de pouce à quelques associations qui portent des projets sportifs, culturels dans le département.
Exactement. Beaucoup d'associations dans pas mal de domaines, que ce soit dans le domaine donc de l'aide aux personnes âgées ou autres, aux personnes handicapées. Des associations sont aussi des radios, comme la nôtre, qui sont gérées par des bénévoles avec un salarié. Des difficultés aussi, puisqu'on a vu que les deux salariés, même un salarié et demi, on va dire, des difficultés là aussi de subventions. On a vu que les subventions départementales ont été baissées. J'en avais discuté avec Alain Pichon, donc le président du département, ce qui peut se comprendre, tout à fait. Il y avait 9 millions, je crois, de baisse de subventions, il fallait bien faire quelque chose. Au niveau de la préfecture, au niveau de l'État, la situation, c'est quoi l'avenir? C'est peut-être aider ces associations à se maintenir. Les radios associatives sont quelque part essentielles à la démocratie.
On en a parlé tout à l'heure. On va se débrouiller pour faire en sorte que, au titre du fonds de soutien de la vie associative, on puisse aussi être présent, parce que votre radio participe énormément à ce rayonnement, à cette capacité de diffuser de l'information, à pouvoir mobiliser, réunir les acteurs d'un territoire. Donc je serai à vos côtés dès l'année 2026. Nous, on a, comme tout le monde, été amené à devoir diminuer en 2025 nos lignes de crédit en direction des associations et sur d'autres acteurs. Mais il faut que nous restions très présents et nous sommes très vigilants sur le soutien associatif, avec parfois aussi des communes qui, pour soutenir les associations, mettent à disposition des locaux. On peut difficilement, nous, intervenir directement sur l'association. On n'a pas beaucoup de lignes de crédit, sauf le fonds de soutien que j'ai évoqué. Mais ça veut dire que les communes portent des projets et ensuite mettent les locaux à disposition de telle ou telle association, association du handicap, association sportive, association une radio, comme ici. Eh bien, ça nous permet, nous, de pouvoir intervenir financièrement aux côtés de la collectivité locale en crédit d'investissement pour faire des travaux ou faire autre chose. Et donc, on restera très vigilant. Encore une fois, 12% de l'emploi dans le département, le préfet que je suis ne peut pas ignorer cette part importante de l'emploi que ça représente.
Exactement, et le ressenti de la population en même temps, puisque quand les associations, oui, en Chauvigny, on a, je crois, 5 000 adhérents aux associations, pour 5 000 habitants pratiquement, ou un peu plus, ce qui est pas mal pour une commune comme la nôtre. Il y a un travail énorme qui a été fait d'ailleurs à l'époque par Gérard Herbert, dont vous parliez tout à l'heure, à ce niveau-là. Donc, on parlait d'associations à l'instant, on parlait aussi des maires, juste avant, la difficulté des maires à pouvoir gérer leur mandat, leur futur mandat. On espère qu'il y en aura toujours autant l'année prochaine. Combien de communes en difficulté actuellement, puisque je crois que lorsqu'il y a un souci, c'est la préfecture qui prend le relais?
Alors avec, oui, la préfecture, avec la direction départementale des finances publiques, nous avons ce qu'on appelle un réseau d'alerte. Ça veut dire que des communes qui sont en situation de difficulté, un investissement excessif, des situations, des charges qui n'ont pas été forcément anticipées, etc. Nous n'avons pas dans ce département de communes en réseau d'alerte. Je souligne parce que c'est aussi à mettre au crédit de nos 265 maires et autres élus du département, puisqu'ils gèrent très très bien leur collectivité locale, dans des conditions pas simples, là aussi, de réduction des moyens, d'exigences de plus en plus fortes de la population, aussi, qui veulent partout, en tout point du département, les mêmes équipements, les mêmes commerces, les mêmes établissements. Eh bien, ils le font de manière très responsable au quotidien. Et donc, on est aux côtés des collectivités locales pour les aider tout au long de l'année sur des choix en investissement, en amortissement, des transformations, parfois des adaptations budgétaires, etc., pour pouvoir les accompagner, comme on le fait avec des entreprises, etc. Mais être maire, c'est aussi ça. C'est aussi gérer beaucoup gérer de l'argent et gérer un peu sa commune comme on le gère son propre budget à la maison. Quoi.
Exactement. J'avais à l'époque, j'étais conseiller municipal à l'appui et on s'était battu pour que les maires restent les portes d'entrée, les mairies, en tout cas les portes d'entrée dans Grand Poitiers. Qu'en est-il aujourd'hui?
Pour avoir géré, comme tout à chacun, la crise de la pandémie grippale, la Covid, plus que jamais, cette période a permis de démontrer que la relation préfet-maire était la relation essentielle. Les intercommunalités sont nécessaires parce qu'elles portent un certain nombre de politiques d'aménagement du territoire, de gestion de l'eau, de gestion des déchets, etc. En revanche, le quotidien, c'est le maire de la commune. C'est moi, mes relations, tous les jours, j'ai plusieurs échanges téléphoniques avec des élus du département. Ce sont quasiment exclusivement des maires de la commune, des maires de la commune, parce que, des maires de commune du département, pardon, parce que ce sont eux qui, au quotidien, travaillent pour le développement de notre territoire. Les intercommunalités sont nécessaires, encore une fois. Elles structurent, elles portent un certain nombre de sujets qui nécessitent d'être mutualisés. Mais le quotidien et la population, vous savez, dans notre pays, il y a deux noms que les personnes connaissent systématiquement. C'est le nom de leur maire, le nom du président de la République. Parfois, tout ce qui est intermédiaire, le nom du préfet, j'en parle même pas, mais ça, ils ne connaissent pas. Mais en tout cas, tout le monde connaît son maire, connaît le président de la République. Voilà.
Alors, je vous disais ça, moi, par rapport au maire, justement, Antoine Célos, pardon, le maire de Latu, qui, il y a quelque temps, se battait contre les projets d'éoliennes sur le secteur. On a vu que le Sud-Vienne, et puis la Vienne en général, les Deux-Sèvres aussi, sont submergés d'éoliennes. On parle de plus de 800 éoliennes dans l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine, sachant que plus de la moitié se situe sur nos deux départements. L'avenir pour ces maires qui essaient de se faire entendre en essayant de repousser ce mastodonte, en fait, d'usine éolienne qui est en train de s'installer?
Alors il y a les éoliennes et il y a le photovoltaïsme qu'il ne faut pas oublier parce que ça fleurit un peu partout. On travaille avec les élus qui ont été amenés à se prononcer sur ce qu'on appelle les ZAENR dans notre jargon administratif, les zones d'accueil des énergies nouvelles renouvelables. Je vais dans les deux mois qui viennent élaborer un document de manière à pouvoir définir notre stratégie d'aménagement du territoire, là où on peut mettre des éoliennes, là où on peut mettre du photovoltaïsme, dans quelles conditions, dans quel délai de raccordement, etc. Parce qu'il y a aussi aujourd'hui une sorte un peu de frénésie, presque d'anarchie en termes de développement. On fait beaucoup de promesses aux particuliers, aux élus ou aux agriculteurs en disant on va vous mettre du photovoltaïsme, sauf qu'on ne leur dit pas qu'ils seront raccordés en 2032 ou en 2034. Ça veut dire que d'ici là, ils n'auront pas de rentrée d'argent. Il faut qu'on puisse mettre un peu d'ordre dans cette organisation. En revanche, on a besoin de ces énergies nouvelles pour donner notre autonomie, notre indépendance énergétique à notre pays dans un monde qui ne va pas bien. Donc on a besoin de la souveraineté alimentaire, on a besoin de l'autonomie énergétique dans notre pays. Et il faut qu'on puisse être aux côtés des élus. Moi, mon prédécesseur avait la même posture. Dès lors qu'un maire est contre un projet d'éolien, je suis contre. En revanche, après, le juge administratif ne suit pas forcément toujours la décision du maire ou du préfet.
Tout à fait, on le voit sur Pleumartin, puisque j'habite pas très loin de Pleumartin, avec une trentaine d'éoliennes qui sont installées aujourd'hui. Je mets au défi quiconque de me donner un seul monument historique visible à Pleumartin, personne ne les voit. Il y a une forme, alors le mot est un peu énorme, c'est de génocide culturel, je dirais. C'est-à-dire qu'on arrive à faire oublier le patrimoine local au détriment de ces éoliennes. Quand on arrive à Pleumartin aujourd'hui, on voit des câbles électriques, on voit des pylônes, on voit des éoliennes, on voit plus ce village. Et c'est partout pareil. Dans le sud de Vienne, on a énormément d'éoliennes qui sont déployées. Les maires se battent pour éviter cela. On n'a pas l'impression qu'ils soient entendus par le préfet, c'est une chose. Aujourd'hui, on se pose la question au plus haut niveau de l'État, savoir s'ils sont véritablement entendus, puisque les projets continuent à arriver tout de même.
Alors, les projets continuent à arriver. On a quand même en face de nous, désormais, des entreprises qui sont un peu plus responsables et qui essayent de prendre un peu plus en compte les endroits où on leur indique qu'il y a des possibilités qui ne viennent pas mettre en péril le patrimoine ou l'environnement, l'impact paysager. C'est pas simple parce que c'est un domaine très concurrentiel où les entreprises entre elles ne se font aucun cadeau. Et puis ça peut être tentant pour des propriétaires fonciers de signer un contrat pour y mettre une éolienne parce que bien il y a des rentrées d'argent. Donc c'est un peu compliqué. On essaye de mettre de l'ordre en ayant une approche très respectueuse de l'environnement et faire en sorte de démontrer que notre département peut encore accueillir quelques équipements, mais dans des endroits bien définis. Et on va y travailler dans les deux mois qui viennent. On a avec le sous-préfet de Montmorillon qui a en charge le pilotage départemental des énergies nouvelles renouvelables, on est en train de développer, de rédiger un document qui devra traduire la stratégie dans ce département d'accueil des énergies nouvelles renouvelables.
Exactement. Vous êtes préfet de la Vienne, on a aussi un préfet de région, je pense, qui est à Bordeaux, qui est votre entre guillemets, supérieur
Alors ça, non, c'est un lien, c'est une autorité fonctionnelle, Étienne Guyot, qui est un formidable préfet de région, qui est très respectueux de chacun des 12 préfets de département dans la région Nouvelle-Aquitaine. Il est notre, bien évidemment notre supérieur sur l'aspect coordination des politiques publiques au niveau régional. Il est aussi le responsable budgétaire sur un certain nombre de lignes budgétaires. Donc c'est à lui qu'on demande les crédits nécessaires. Et puis c'est un animateur avec qui il est très agréable de travailler, mais il est notre pilote et c'est lui qui coordonne par exemple toute une série de politiques, dont celle de l'implantation des énergies nouvelles renouvelables en région.
Exactement, on notera qu'il n'y a pas beaucoup d'éoliennes sur le Bordelais. Quelles sont toutes sur la Vienne et les Deux-Sèvres et le Nord-Charente, hein, très peu. On peut regarder sur les cartes qui sont mises en place, hein, sur Internet, où on voit que le Bordelais et puis les autres départements sont beaucoup moins impactés que le nôtre, même pas du tout impactés, on peut dire. Cette politique-là est mise en place donc, au niveau national. Hein, vous êtes là pour appliquer les directives qui sont mises en place au niveau national. Je parlais tout à l'heure donc de votre travail de préfet au jour le jour, hein, véritablement. On voit actuellement, on a souci de ressenti, en tout cas d'insécurité au niveau de la population. Au jour le jour, ça va être assez difficile de mettre en place les moyens justement pour contrôler. Je pense qu'il y a du contrôle de ce côté-là.
Oui, il y a du contrôle dans le domaine de la sécurité en général, de jour comme de nuit. Nous avons aussi des contrôles en matière d'immigration irrégulière. On a des contrôles extrêmement importants en matière de lutte contre les produits stupéfiants,
oui,
qui est quand même le fléau de notre pays, hein, pas que dans la Vienne, mais la Vienne n'y échappe pas. C'est pas que parce qu'on a l'autoroute A10 que la drogue transiterait du sud vers le nord. C'est aussi dans la population, partout, en zone urbaine comme en zone rurale, la présence des produits stupéfiants. Et donc, on ne peut pas banaliser ces phénomènes parce que pour notre jeunesse et pour l'ensemble de la population, c'est un véritable fléau en matière de santé publique et puis source d'une grande économie souterraine dont on ne maîtrise pas toujours tous les impacts, mais dont on sait quand même que c'est extrêmement dangereux. Donc, on est au quotidien très mobilisés. Nous avons tous les jours, deux fois par jour, les policiers et les gendarmes me rendent compte de leur activité. Hier soir, des contrôles sur la route pour les contrôles routiers, pour l'alcoolémie, pour la conduite. Mais c'est aussi la prévention des cambriolages. C'est la présence sur les établissements festifs, là où il y a des discothèques et autres, le moyen d'être présent de manière à ce qu'il n'y ait pas de débordement. C'est un engagement du quotidien et qui est une priorité. Voilà. La sécurité, c'est un droit pour chacun des citoyens.
Tout à fait. Vous en parliez tout à l'heure, vous avez été en charge de la sécurité au niveau des Jeux Olympiques. Vos plus beaux souvenirs à ce moment-là, parce que c'est vrai que c'était une période d'euphorie, on peut dire. Tout le monde s'attendait aux pires événements qui soient. Et c'est vrai que tout s'est relativement bien passé. Ça a dû être assez compliqué quand même à organiser, à surveiller.
Ça a été terriblement compliqué à organiser, je vous le confirme.
Vous avez une bonne place, au moins,
mais nous avions, et paradoxalement, en ayant été en charge sous l'autorité de Laurent Nunez de l'organisation de ces Jeux Olympiques en Île-de-France, je n'ai assisté à aucun événement. Je n'ai pas vu ni la cérémonie d'ouverture ni la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et je n'ai vu aucun événement parce que mon travail pendant l'ensemble de la durée des Jeux Olympiques a été d'être en salle de commandement, de pouvoir piloter, diriger l'ensemble de ces dispositifs. Nous avons mobilisé plus de 10 000 militaires. Il y avait 1 700 secouristes tous les jours mobilisés, jusqu'à 45 000 policiers et gendarmes le jour de la cérémonie d'ouverture, etc. Tout ça, ça a été un merveilleux événement. Mon plus beau souvenir, mon meilleur souvenir de ces Jeux Olympiques ont été les dernières minutes des Jeux Paralympiques. C'était le moment où on avait terminé notre mission. C'était le dernier événement. On finissait, on mettait la clé sous la porte des Jeux Paralympiques et nous avions terminé cette grande séquence. Et depuis les images de vidéosurveillance que nous avions de la sortie du Stade de France, nous surveillions le flux pour que tout se passe bien. Pas d'attaque terroriste, pas d'actes malveillants, etc. Et nous observions aux caméras les gens qui, hommes et femmes, passant devant les policiers et gendarmes, les applaudissaient et pour nombre d'entre eux, embrassaient nos policiers et nos gendarmes. Et pour nous, on était tous très émus parce que d'abord, il y avait cette fin de séquence où on était tous sous pression, mais ça nous permettait de montrer ce qu'on avait de plus beau, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir un pays où tout se passait bien et où on s'entendait bien. Et c'était une période un peu de répit dans notre pays qui a fait le plus grand bien et qui a permis de nous envoyer les plus belles images dans le monde entier de ce qu'on est capable de faire en France.
Exactement, c'est vrai qu'on se plaint beaucoup, on aime se plaindre, peut-être un peu trop souvent. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de belles choses qui se passent dans notre pays, notre département aussi. Alors la situation dans le département est plus stable, on va dire, hein, qu'au niveau des Jeux Olympiques, hein, ce que vous avez pu rencontrer au niveau des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, l'organisation de manifestations se fait aussi quelquefois, c'est assez compliqué à gérer. Comment ça se passe de ce côté-là, vous?
Ce département a quand même une habitude d'accueillir des grands événements. On a accueilli cette année quand même le Tour de France féminin avec une étape d'arrivée, un départ depuis la Vienne. On a aussi eu le Tour de France masculin, certes qui n'a fait que passer par le département. Ce n'était pas une ville étape, mais on a accueilli le Tour de France masculin. On a toute une série d'événements avec le marathon du Futuroscope, le marathon de Poitiers, enfin des grands événements. Je cite cela et j'en oublie bien évidemment énormément. Il y a aussi des grands événements autres à Cissé. Il y a des événements culturels aussi qui rassemblent énormément de monde. Eh bien, c'est très facile. Dans le département de la Vienne, je confirme, on met tout le monde autour de la table. Chacun dit ce qu'il va faire, comment il envisage l'événement, les dispositifs de sécurité, comment on va accueillir le public, etc. Et les choses se passent à chaque fois, de manière surprenante peut-être, par rapport à d'autres départements, même ça se passe bien, dans une bonne ambiance, etc. Mais c'est aussi pour ça que, par exemple, nous sommes très exigeants, très vigilants, pour ne pas laisser des événements que je qualifie d'illégaux, type rêve party et autres, parce que quasiment toutes les semaines, nous avons des tentatives d'installation. Et nous en avons une, d'ailleurs, pas la semaine dernière, du côté de Chauvigny. Et donc, on est très exigeant pour que ces événements qui ne sont ni déclarés, ni organisés dans de bonnes conditions de sécurité, ne puissent pas se dérouler dans le département, de manière à laisser la place à celui et celle qui assume ses responsabilités et qui organise de manière responsable cet événement.
Exactement. Vous parliez d'événements illégaux qui pouvaient être organisés. Alors, on n'ira pas dans le détail, savoir comment vous pouvez être informé. Moi, j'ai vécu pendant 2 années au Maroc. Et je me suis aperçu que là-bas, quoi qu'on fasse, les autorités étaient au courant aussitôt de ce qui se passait, parce que la population était proche des autorités, on peut le dire. Comment ça se passe en France, au niveau de la population, au niveau de la sécurité, justement? Vous avez souvent des appels de la population pour prévenir, pour avertir, pour une aide de la population? Ou alors on est plus distant par rapport à cela?
Ça s'améliore. Ça s'améliore. Bien évidemment, moi, je suis préfet, mais je ne suis pas dans une société de délation, etc. Il faut que, malheureusement, notre pays a connu des périodes sombres de son histoire, où il faut l'assumer. Et donc, je ne souhaite surtout pas rentrer dans ce type de société où on irait à observer les uns et les autres, etc. En revanche, nous avons des dispositifs qui fonctionnent bien. On a l'application que tout un chacun peut télécharger, Ma Sécurité, qui fait qu'on peut signaler des choses anormales sur son secteur ou là où on passe, que nous avons la brigade numérique qui fait qu'on peut être en direct avec la gendarmerie pour pouvoir faire part d'un certain nombre de difficultés. Nous avons Ma Plainte en ligne qui permet de rendre accessible et de faciliter la prise de plainte pour les particuliers là également ou pour les chefs d'entreprise. Nous avons toute une série de dispositifs qui permet quand même de rapprocher la population. Il y a eu une période toute récente de notre organisation qui a éloigné un peu nos gendarmes et nos policiers de la population. Et maintenant, nous avons vraiment une volonté de revenir vers la population pour pouvoir faire en sorte de mieux échanger, mieux travailler avec elle, pour pouvoir faire en sorte de répondre aux attentes, parce qu'il y a des attentes fortes en matière de sécurité. On a le droit de pouvoir vivre au quotidien sans être la peur au ventre pour pouvoir aller se déplacer le matin comme le soir, quoi.
Tout à fait. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil, la préfecture est liée justement à ce qui se passe sur les réseaux sociaux?
Oui, on observe un peu les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, c'est une nécessité. Le temps passe plus vite, le temps va très vite et les réseaux sociaux ont pris leur place. Je ne suis pas un adepte de ça parce que ça donne une information trop instantanée. Mais on est obligé de vivre avec. Et donc, on est aussi très présent sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, de manière à pouvoir aussi faire savoir ce que nous faisons dans notre actualité et d'observer aussi un peu le monde, parce que les réseaux sociaux sont quand même un capteur important de la société, d'expression. Il y a un réseau social, par contre, dont nous nous sommes retirés parce que c'était devenu un peu noir et qui donnait une expression avec des gens qui déversaient leur haine. Et c'est pas ça, les réseaux sociaux, ça doit pas être ça. Enfin, c'est X en particulier.
Voilà. Exactement, tout à fait. C'est vrai que même Facebook, aujourd'hui, je regardais des gens qui sont en limite à la délation, hein, puisqu'on a des annonces, hein, de personnes qui sont recherchées sur Facebook. Ça m'a un peu étonné, justement, qu'on laisse faire ça, mais c'est peut-être pas au niveau du département. Hein. J'ai notamment vu une affiche de quelqu'un qui était recherché parce qu'il avait ça peut-être détourné des fonds du côté de Servan-Saumont. Ça m'a un peu étonné qu'on puisse laisser dire et faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Au niveau de la préfecture, il y a un site, hein, je crois, hein, important, où on peut vous contacter.
Absolument. Il y a, depuis le site internet ou sur les réseaux sociaux, un LinkedIn avec Préfecture de la Vienne, vous pouvez nous saisir directement. Et puis, je l'ai dit plusieurs fois aux journalistes, hein, beaucoup de monde a mon 06. Mais mon adresse mail est très facile à trouver, hein, c'est serge.boulanger@vienne.gouv.fr et je peux vous assurer que quotidiennement, je dis bien quotidiennement, nombre d'acteurs, y compris parfois des simples particuliers, m'interpellent sur des sujets, les problèmes qu'ils rencontrent, etc. Et puis j'ai aussi une vie privée qui fait que le samedi, j'accompagne mon épouse pour faire ses courses, etc. De manière aussi à avoir le contact avec la réalité du monde et que quand vous êtes dans un centre commercial ou dans les rues de Poitiers ou ailleurs, eh bien, les gens vous reconnaissent et vous saisissent et vous disent quelle est leur situation et éventuellement les problèmes dont, auxquels ils font face.
Exactement. Vous avez prévu d'aller sur le marché de Chauvigny, peut-être pas, il est tard maintenant, les commerces vont bientôt partir, mais vous êtes déjà venu sur ce marché ?
Alors, je suis déjà venu sur le marché, mais de manière tout à fait anonyme.
Oui, voilà.
Et comme sur ce marché, comme à la foire aux Éroles, etc., de pouvoir aller voir les événements, parce que c'est la vraie vie, c'est les vrais gens, c'est les gens qui parfois vous reconnaissent ou parfois ne vous reconnaissent pas, ce que j'apprécie aussi, parce que ça vous permet de voir la réalité de la vie poitevine et de pouvoir échanger avec les commerçants, voir avec les habitants, etc. Et de pouvoir... moi, j'apprécie beaucoup le dimanche après-midi, comme je disais, que je me promenais dans ce département, de pouvoir aller prendre un verre en terrasse et de pouvoir observer, écouter, regarder un peu ce qui se passe et de prendre la température de notre département. Voilà. Et je suis très satisfait de ce que je vois et de la qualité de ce que je vois.
Beaucoup de visites dans le département, beaucoup de visiteurs. On a eu Mme Macron qui était là il y a quelques jours. Hein. D'autres personnes à venir prochainement
Alors c'est un peu tôt parce qu'aujourd'hui le gouvernement est extrêmement concentré sur bien évidemment la loi de finances dont tout le monde a besoin. Mais je me suis déjà manifesté auprès de plusieurs ministres pour pouvoir obtenir leur visite dans le département. Voilà, j'aurais beaucoup de plaisir à pouvoir, par exemple, accueillir le ministre de l'Intérieur ou la ministre de la Culture, entre autres, mais aussi la ministre en charge du handicap, etc., etc. Parce que ce département, on a besoin de faire savoir ce qui se déroule dans ce département avec des choses assez formidables. Mais nous avons aussi des besoins qu'il faut pouvoir exprimer avec le fait que le national puisse parfois entendre la nécessité d'adapter certains dispositifs à la réalité de notre territoire.
Exactement. Alors, sait-on jamais, peut-être qu'un samedi de 11h à midi, nous aurons la chance de ces personnalités ici sur dans notre studio. Je vous remercie en tout cas, monsieur le préfet, d'être venu. Je rappelle que vous êtes très accessible, hein, puisque je vous ai, moi, contacté, ça doit être dimanche dernier, dimanche soir, hein, pour vous envoyer un petit mail en vous demandant votre intervention. Vous m'avez répondu aussitôt. En me disant, je suis disponible pour samedi prochain, je vous remercie par rapport à cela. Ce ne sont pas de 20 mots lorsqu'on parle d'accessibilité, c'est vraiment votre cas. Merci d'être venu sur notre studio.
Merci à vous surtout de votre invitation et un grand plaisir de pouvoir avoir échangé avec vous et de pouvoir, je l'espère, intéresser vos auditeurs. Merci à vous de votre invitation.
Merci, à bientôt, au revoir.
Les chemins de traverse, rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins traversent sur REC 103.7, animé par Francis.